samedi, Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire, avec Grégoire, à l'occasion de la sortie de son nouveau titre, C'est quand ?
Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé une bonne matinée. Vous le savez, on a dans la station, chaque semaine, un invité qui se livre à la grande interview pendant une heure, donc aujourd'hui. Alors moi, c'est un grand plaisir parce que c'est quelqu'un que je suis depuis pas mal de temps, dans l'ombre, comme beaucoup d'ailleurs. C'est Grégoire. On va avoir le temps, évidemment, de parler de lui, puisqu'il y a la tablette avec des mots. Avec ces mots, moi, je dois faire des questions. Ça, c'est assez facile. Et c'est surtout à Grégoire d'y répondre. Ça va bien, Grégoire ?
Ça va bien, et vous ?
Bon, bah, très, très, très bien. On commence tout de suite. Alors, voilà, on va voir. Juste une petite chanson. Là, on est dans l'actualité. C'est Les Enfoirés. J'aimerais qu'on me raconte l'histoire de cette petite chanson. Comment ça s'est passé ?
Eh bien, je l'ai écrite un soir. J'ai écrit une chanson, je pensais à mes enfants. J'écrivais une sorte de petite comptine, juste une petite chanson d'amour pour te dire que je t'aime. Et puis, au fur et à mesure, il y a d'autres phrases qui me sont venues et qui me faisaient penser aux Enfoirés et au Resto du Cœur, surtout, comme pour tous ceux qui sont pour, qui se battent malgré tout, qui croient alors, jusqu'au bout.
Concrètement, c'est où ? C'est à la maison,
c'est à la maison sur le piano, une improvisation. J'avais cette idée de c'est juste une petite chanson et de rester sur le thème que c'était juste quelque chose d'intime comme ça et qui devenait et au final qui devient comme un canon, comme toutes ces chansons là où au fur et à mesure les gens commencent à chanter ensemble et ça devient quelque chose d'énorme parce que ce sont des voix qui s'additionnent. On chante pas forcément plus fort, mais on chante à plus nombreux, effectivement à plusieurs. Et donc il y avait cette idée là et ça m'a tout de suite fait penser donc au Resto du Cœur au niveau des paroles et aussi à la collégiale des Enfoirés, au fait qu'on pouvait le chanter avec le public pendant les concerts et que ça devenait quelque chose de grand. Et il y a cette image de la solidarité et du fait que plus de gens s'entraident et plus on va avancer dans le meilleur
Comment,
sens.
Comment est-ce que vous avez eu la réaction de Jean-Jacques Goldman à propos de ça ?
Ah ben moi j'ai envoyé le piano voix de ma chanson à Jean-Jacques Goldman et là-dessus il m'a dit qu'il a trouvé très très bien et il m'a dit on va la prendre pour mais alors probablement parce que c'était pendant les vacances, les grandes vacances, il y a un an et demi, et donc il m'a dit pour l'instant on va garder, on a Marc Lavoine qui avait écrit qui avait mis de la musique sur le poème de Paul Éluard Liberté. Mmh. Donc ça c'était la chanson prévue pour l'année qui arrivait et il m'a dit dans un an et demi donc on va utiliser ta chanson, on va la mettre, on va travailler
là,
dessus.
Là ça veut dire que c'est quoi, c'est une reconnaissance, c'est...
Bah, on avait déjà travaillé avec Jean-Jacques Goldman sur Encore un autre hiver, la première, ouais. Il y a 5 ans auparavant, et c'est, d'une certaine manière, oui, c'est-à-dire que lui, l'a trouvé assez bien pour défendre la cause, et donc, il y a quelque chose de très flatteur, et c'est vrai qu'après, j'ai travaillé dessus, mais il a été toujours dans l'ombre, c'est-à-dire que, je sais pas, moi, je travaillais dessus, et pendant les arrangements, pendant toutes ces choses-là, on s'est mis, toutes les semaines, on se faisait un bilan, un compte-rendu de là où on en était, vers quelle direction avancer. Et ensuite, il m'a soumis d'ailleurs l'idée de... Il m'a dit, ce serait bien qu'il y ait une pause au milieu et qu'on mette un peu de rap. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai tout de suite pensé, quand on pense rap et enfoiré, j'ai pensé à MC Solar. Donc, j'ai demandé à MC Solar d'écrire le petit passage parlé au milieu. Et puis, on a continué à avancer comme ça. Donc, lui, il a été la première personne à entendre la version définitive et à donner son avis, à donner et à valider.
Un autre mot. Ça, jamais. Ça, jamais quoi ?
Jamais me corrompre, me fourvoyer, jamais faire des choses que...
Est-ce que vous avez changé entre le moment où vous avez commencé avec la... Major Company et aujourd'hui, est-ce que le fait, et d'ailleurs ce serait compréhensible, d'être connu, d'avoir du succès, est-ce que ça vous change ?
Je ne sais pas si c'est ça qui m'a changé. Je pense que le plus gros changement, il est depuis que j'ai des enfants, et mon fils a 4 ans, et le fait d'être père et le fait de prendre conscience que tout ce que je fais n'engage pas que moi et que ça a des conséquences et qu'il y a une sorte d'héritage et que je veux jamais que mon fils me dise mais à la maison t'es comme ça et pourquoi t'as fait ça et donc et même dans ce que j'allais dire dans les chansons que j'écris d'être ultra sincère, de savoir où je veux aller artistiquement, etc., pour pouvoir toujours l'assumer et qu'ils se disent pas, mais papa, ça a aucun rapport avec ce que je connais de toi. Donc d'être vrai à fond et
vous êtes fier de vous ?
Je suis fier, j'en sais rien. Ça c'est très. Je suis En tout cas, je suis heureux je me sens, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux artistiquement et je suis heureux de ce que je fais parce que j'ai l'impression, en tout cas, d'être honnête avec moi-même. Donc, fier, j'en sais rien, mais en tout cas, pour moi, je suis droit dans mes bottes et dans mes opinions et dans mes choix artistiques, dans mes choix.
Ça, j'en suis sûr.
Voilà, il n'y a pas
Ouais. Est-ce que vous n'avez pas été quelquefois déçu par ce métier qui est quand même
fait aussi? Bien sûr. Non, après moi j'ai changé parce qu'au début je faisais beaucoup de choses et puis j'ai un côté assez entre guillemets gentil mais parfois dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que je fais tout et n'importe quoi et au bout d'un moment on sait plus où on en est nous-mêmes. Donc maintenant je pèse toujours le pour et le contre mais après si bien sûr le métier c'est plein de petites choses qu'en plus que je veux dire que c'est dans les coulisses.
Oui, c'est de ça que je vous parle.
Moi, je suis pas très dans la mondanité. Donc déjà, les gens, je sais pas faire les soirées. Je sais pas comment dire.
C'est pas que vous savez pas, c'est que vous n'en avez pas envie, tout simplement.
Oui, en plus,
voilà.
Je suis pas dans le washi-washa. Et puis, de toute façon, je pense que ça ne sert à rien. Je pense que je le confirme. Je pense que ça ne sert à rien. Et à côté de ça, non. Après, il y a des. Moi, j'aime pas trop qu'on s'engage beaucoup. Il y a des gens qui vous font croire des choses et qui parfois, indépendamment de leur volonté, hein, parfois c'est consciemment qu'ils le font, mais parfois c'est inconsciemment. Ils peuvent pas tenir leurs promesses. Et ça me dérange souvent. Et je préfère qu'on m'en dise peu. Et j'aime bien les gens qui me disent non, j'aime pas ou voilà, c'est comme ça. On va peut-être faire ça, mais les gens qui se disent ouais c'est génial, on y va, et puis au final, voilà, moi je suis assez naïf, j'ai tendance à et donc maintenant j'ai changé aussi là-dessus, hein, c'est-à-dire que d'être moins déçu, de toujours me dire bon, c'est pas parce que la personne l'a dit que moi je pense que faut faire attention aux actes dans ce métier plus qu'aux paroles et même dans la vie en général. Et voilà, je mène mon petit bonhomme de chemin et maintenant je me soucie moins de tout ça d'ailleurs.
On va écouter C'est quand. Alors d'abord c'est maintenant et racontez-moi un peu C'est quand.
C'est quand, c'est une chanson qui est venue comme ça. Il y a des chansons, généralement parfois on écrit une chanson, on fait un yaourt en anglais, on dit n'importe quoi et puis après on écrit un texte et parfois c'est compliqué. Et là c'était très fluide. J'avais la mélodie, je commençais à fredonner la mélodie et puis c'est quand que tu viens, c'est quand que tu passes et toutes les paroles se sont enchaînées, j'allais dire assez naturellement, je me suis arrêté, j'ai écrit le texte et après j'ai dû retoucher 2-3 trucs mais pas grand-chose. Donc il y a des chansons comme ça qui sont fluides et c'est vrai que c'est quand le bonheur, c'est quand mon tour, il y a beaucoup de gens autour de moi qui se posent cette question, c'est quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que les
Alors
choses...
Alors vous, le vôtre est arrivé déjà depuis pas mal de temps, on va en parler dans un instant. Pour l'instant, sur MFM Radio, c'est Grégoire, c'est quand?
Samedi Sabatier, sur MFM Radio.
Alors, votre tour est arrivé il y a quelques années, justement. Est-ce que vous vous posiez, Grégoire, avant que ça n'arrive, c'est quand? Est-ce que vous avez été impatient?
Oui. Ah oui, bien sûr. Impatient, pas forcément. Et puis avec le recul, aujourd'hui, je me dis que je pense que le succès, je l'aurais beaucoup moins bien assumé à 20 ans qu'à 30 ans. Donc non, j'ai pas été impatient parce que tous les gens que j'adore, que j'admire, que ça soit Léo Ferré, Jacques Brel ou Jean-Jacques Goldman, ont tous commencé à 30 ans. Donc je me disais voilà, il faudrait qu'entre 25 et 30 ans ça se confirme quand même parce qu'après ça va être un peu tard. Donc j'étais pas inquiet en tout cas. Après on a toujours envie que ça arrive, mais je pense que c'est arrivé au bon moment parce que quand je réécoute les chansons que j'écrivais à 20 ans, il y avait quelque chose mais c'était pas forcément abouti. Donc il y a plein de choses comme ça qui me voilà, moi j'ai pris mon temps et je voulais aussi avoir je voulais pas avoir deux trois chansons. Je voulais avoir un certain répertoire pour pouvoir choisir, pour pouvoir avoir vraiment de la matière et pas me retrouver tiens avec un succès et me dire après qu'est-ce que je fais maintenant.
Un autre mot.
Senlis.
Senlis. C'est là où vous êtes né?
Je suis né à Senlis. J'y ai vécu jusqu'à j'ai encore des attaches là-bas hein, et j'y ai vécu jusque après mon bac.
Vous aviez des idoles quand vous aviez, je sais pas, 10 ans, 11 ans, 12 ans?
Ça a commencé, après, hormis Chantal Goya, quand j'étais très jeune, j'ai eu une période Claude François. très grosse période Claude François, je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup.
Vous avez quoi, 35 ans, 34 ans?
J'ai 37. Maintenant. 37 je vais avoir 38.
Ah ouais, et donc vous avez quand même la période Claude François, hein?
J'ai une période Claude François qui m'a amené, mais quand j'avais, je veux dire, 7-8 ans. Et ce qui est marrant, c'est que ça m'a amené, il y a Claude François Junior, son fils, a fait une émission pendant l'été qui s'appelait Salut les 60. Et donc j'ai regardé cette émission notamment parce que je pensais voir du Claude François et parce que c'est en plus présenté par son fils. Et là j'ai découvert les Beatles qui chantaient à Days Night. Et à partir de là, à partir de ce moment, j'ai la chance d'avoir des grands frères qui avaient les Beatles à la maison et j'ai commencé à écouter les Beatles en boucle et ça jusqu'à je crois que j'ai rien écouté d'autre entre 8 et 16 ans. J'étais et même
ça forme.
Ouais, mais et j'ai donc écouté en long, en large, en travers. J'étais absolument fan et je pense que j'étais même fermé. Hein, c'est-à-dire que pour moi le reste n'avait aucune importance. Et ensuite après j'écoutais les trucs de mon époque, donc je pense à Nirvana, les Guns N' Roses, tout ça. Et ça m'a amené à David Bowie. Ça m'a amené. Et puis j'étais très fan de. Je me suis intéressé à ce qu'aimaient les Beatles. Donc ça allait de Chuck Berry, Bob Dylan, les Beach Boys, toutes ces. Je suis très très marqué par les années 60-70. Et puis en français, indépendamment de Barbara Ferré-Brel, il y avait Goldman, Berger, Cabrel. C'était. C'est Balavoine aussi. Ça, c'était toute mon enfance. Et puis après, je m'intéresse à tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plein de groupes. J'adore Rihanna, par exemple. J'adore. Il y a plein de choses comme ça que j'adore. Mais voilà, c'est là où je me suis formé.
Un autre mot peut-être.
Admiration.
Alors l'admiration. Est-ce que vous, il y a une personne pas connue que vous admirez? Est-ce que par exemple, parce que là vous êtes dans une famille recomposée, est-ce que il y a l'admiration? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup Grégoire s'est fait waouh?
Moi, c'est que principalement les gens qui savent s'oublier et qui et je pense notamment aux bénévoles, mais il y a les Restos du Cœur, mais il y a toutes les associations. Je pense aux pompiers, ça me fascine, les gens qui à un moment aident l'autre,
qui pensent plus aux autres qu'à eux-mêmes,
sans chercher forcément à recevoir, simplement ce besoin d'aider. Et ce besoin d'aider n'importe qui, c'est pas sans désintérêt total, ça me fascine. Et après ça va jusqu'à je pense aux grandes causes, hein. Je pense à des Gandhi, je pense à Luther King, je pense aux résistants. La résistance, ça me fascine. Je sais pas ce que j'aurais fait, moi. J'allais dire, est-ce que j'aurais été capable de, ou est-ce que j'aurais été complètement lâche, enfin j'en sais rien du tout en temps de guerre. Donc tout ça, Jean Moulin me fascine, et puis même ceux qui sont inconnus, hein, les petites histoires de ça, c'est vraiment ce que je trouve incroyable et ce qui me donne l'espoir dans le monde et dans tout ça, c'est qu'il y a des gens comme ça qui font tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux, enfin tout ça, ça c'est l'admiration totale. Et quand on en arrive là, et même dans le quotidien, quoi, les gens qui sont au service de l'autre sans intérêt, ça me...
Autre mot.
My Major Company.
Alors, toi plus moi, oui. Énorme succès. Je voudrais simplement que vous me disiez, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, comment vous avez écrit cette chanson, en combien de temps, où c'était. Parce que moi, je suis toujours incroyablement fan d'un truc qui n'existait pas il y a un mois, une heure, et que tout d'un coup, toute la France, tout le monde chante. Je me fais, mais c'est super. Alors, racontez-moi la petite histoire de ça.
La petite histoire, c'est que j'avais entendu, j'arrêtais pas de composer les chansons sur un piano, et j'avais entendu, je crois, Étienne Dao qui disait, moi je compose sans instrument, comme ça j'ai une liberté. Et je repeignais l'appartement de mon frère, Porte de Saint-Ouen, à Paris, et en repeignant l'appartement, donc je m'imaginais des mélodies. Et m'est venu, et toute la mélodie m'est venue comme ça. En plus, je voulais écrire une chanson qui commence par le refrain. Là-dessus, je prends ma trottinette parce que j'habitais à Clichy. Je prends ma trottinette, je rentre en 10 minutes dans ma colocation. Là, j'ai mes colocs qui s'y connaissent pas mal en musique. Et je suis persuadé à ce moment-là que cette chanson existe. Et je leur dis, mais c'est quoi? Et je m'attendais à un truc du style, ah oui, ça me fait penser à, et puis à le truc qu'on trouve jamais, mais, et là, les deux me regardent et font, Oh, pas du tout. Mais les gars, ça vous fait penser à rien. Et j'insistais. Hein. Et non, pas du tout. Donc là, j'ai pris ma guitare, j'ai relevé les accords. Et j'ai gardé ça et j'avais dans la tête en plus You and Me. Il y avait un côté T for two and you, and and me. Il y avait un truc comme ça. Donc You and Me, etc. Mes parents sont des mathématiciens chevronnés. Donc il y avait l'idée de faire une équation comme ça. Et j'avais ce refrain et j'arrivais pas à trouver de couplet. Et donc je me suis dit, bah, je vais peut-être faire quelque chose qui va évoluer comme ça avec les instruments qui vont rentrer au fur et à mesure comme une comptine. Ouais. Et c'est venu toi plus moi et très rapidement les premières paroles sont venues puis ensuite j'ai mis les j'allais dire les et ce qui est marrant dans
vous savez et je vous interromps un instant entre toi plus moi et juste une petite chanson je trouve que c'est
non, dans la ritournelle c'est souvent
c'est dans le même élan vous comprenez ce que je veux dire
même c'est quand dans mon nouveau single, il n'y a pas vraiment de refrain. Il y a toujours une ritournelle comme ça, qui est une sorte de montée en puissance de quelqu'un qui. Et effectivement, c'est quelque chose quand je trouve quelque chose comme ça, j'ai parfois du mal à m'en sortir. Et en même temps, moi, j'aime bien ce genre de ce que j'appelle une sorte d'autoroute. C'est-à-dire, on est parti. Une fois qu'on est parti, on a embarqué et puis on s'arrête plus. Mais l'anecdote de toi plus moi, c'est que il y a un moment. Déjà, j'avais écrit cette chanson aussi pour les gens qui restent toujours, qui osent pas danser parce qu'ils ont peur des critiques des autres. Et il y avait le côté rentrer dans la danse et ceux qui se moquent, c'est ceux qui critiquent. Enfin, ceux qui sont ridicules, c'est ceux qui critiquent. C'est pas ceux qui dansent bizarrement entre guillemets. Chacun a sa manière de danser ou de pas savoir danser. Et après, on a enregistré une maquette. J'ai enregistré 6 titres et je les ai finis avant le temps imparti. Il me restait 3 jours. Et là-dessus, la personne avec qui j'enregistrais ma maquette m'a dit « T'as pas une chanson qui traîne, qu'on pourrait faire ?» Et j'ai fait « Ben si, j'ai ça, toi plus moi. » Et en 3 heures, on a enregistré la chanson telle que...
Rendez compte, c'est incroyable.
Telle que vous l'entendez. C'est-à-dire que si j'avais mis plus de temps à faire les 6 autres chansons, ben on l'aurait jamais enregistrée.
Et vous ne seriez peut-être pas là.
Exactement.
On va du côté des enfoirés... Ben, y a rien à dire, quoi. C'est un rendez-vous qui ne devrait pas exister, mais qui existe. Alors, c'est quand même tant mieux qu'il soit là.
Samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire, avec Grégoire, à l'occasion de la sortie de son nouveau titre, C'est quand ?
Donc, surtout Grégoire, l'invité de cette émission avec des mots. À moi de faire des questions avec ces mots sur MFM Radio et à Grégoire d'y apporter la réponse.
Amoureux.
Amoureux. Alors, vous êtes avec Éléonore ?
Oui. Je suis marié.
Non, mais attendez, ma question, elle est, comment vous l'avez rencontrée ? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup vous êtes tombé amoureux d'elle ?
Eh ben, on s'est rencontrés au mariage d'une personne qu'on a au commun. Mariage auquel on allait tous les deux en se disant on rencontrera jamais personne. Alors que avant, chaque fois que j'allais à un mariage, je me disais c'est là qu'on rencontre la femme de sa vie, le fameux cliché. Là, on y allait tous les deux en se disant bon ben qu'est-ce que on va rencontrer personne et on s'est très bien entendu. Et c'était ce qui est marrant, je pense que c'est nos chemins de vie qui font qu'on s'est rencontrés en fait. C'est-à-dire que nos histoires, belles ou moins belles, entre guillemets, tout ce qui a pu se passer avant fait qu'à un moment, on est arrivé à une sorte de maturité dans les relations qui faisait qu'on cherchait chacun la même chose et quelque chose d'évident et de se rendre compte qu'au final, dans l'amour, enfin en tout cas dans la relation amoureuse, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est la sérénité. Je pensais pas ça à 20 ans. À 20 ans, je pensais que c'était la beauté de l'autre. Je pensais que c'était le.
C'est bien,
qu'il y avait toujours un jeu, un truc, qu'il fallait un truc de séduction, suis-moi, je te fuis, etc. Et en fait, non, je pense que, enfin, en tout cas, moi, ça fait 5 ans que c'est comme ça et que tout est parfait. C'est la sérénité. C'est-à-dire que tout est simple. On n'est jamais dans le conflit. Alors parfois, on se prend un peu bec, mais ça dure 10 minutes. Tout est évident. On se connaît très bien. Et au final, on n'est pas. Alors bien sûr, il y a de la séduction. Toujours essayer de trouver des petits jeux, des choses comme ça pour entretenir quelque chose. Mais en même temps, on n'est pas dans.
Qu'est-ce qu'elle fait, Éléonore ?
Éléonore est productrice. Elle était avocate pendant 20 ans et maintenant elle est productrice. Elle a produit notamment Robin des Bois et elle produit Les Trois Mousquetaires.
C'est facile de vivre avec vous ?
Non. C'est plus facile de vivre avec elle, je pense, que de vivre avec moi.
Pourquoi vous avez des moments où vous doutez?
Oui, parce que oui, elle est plus cartésienne d'une certaine manière. Il y a des moments où on doute, il y a des moments où, enfin, en tant qu'artiste, on a quand même des égos. Il y a des choses qu'on comprend pas. Puis je suis assez adolescent aussi. J'ai des, entre guillemets, des sautes d'humeur. J'ai parfois du mal à me réveiller. Mais en même temps, je m'améliore. Elle m'améliore. je suis moins colérique, je suis moins l'injustice m'exaspère, donc mais elle me calme là-dessus. Enfin, il y a plein de choses comme
ça. Pardon, qu'elle vous calme. Hein. Restez un peu révolté. Quand
oui,
même.
Non, je suis complètement. Il faut, hein. Je suis révolté et puis mais il y a le côté elle sait. Fait de me dire ça va aller, on va y arriver. Enfin voilà, quand moi je suis dans des périodes de doute, etc. Donc je suis plus une montagne russe qu'elle.
Vous avez écrit Ta main.
Oui.
C'est quoi l'histoire?
Ta main, c'est j'avais fini mon album Toi plus moi et il manquait une chanson qui est effectivement enfin. Pour résumer rapidement, j'avais trois frères et il y en a deux qui sont malheureusement partis.
Un qui est mort dans un accident de voiture, l'autre qui s'est suicidé. Je pense que ce que vous êtes aujourd'hui est assez remarquable, Grégoire. Moi, j'ai beaucoup de respect pour vous parce que vous avez accompli le travail qui est tellement difficile, qui est de vivre quand même.
Ah bah il faut, je pense que la facilité, c'est enfin, facilité, j'allais dire, c'est chacun est un cas particulier, mais l'évidence même en tout cas, c'est de s'effondrer et de se dire voilà, la vie s'arrête, deux coups sur coup, on se dit pourquoi moi, et au bout d'un moment, l'idée c'est de vivre. Et souvent, j'allais dire, ce qui se passe avec Ta main, c'est que donc j'ai écrit cette chanson et puis je l'avais écrite de manière à ce que les gens pensent que je parle d'une relation un peu d'une relation amoureuse qui s'éteint parce que je voulais pas imposer mon histoire. Et les gens m'envoyaient des messages en me disant vous avez sûrement dû l'écrire pour une petite amie, mais moi je pense à mon grand-père, moi je pense à ma maman, etc. Et comme les gens se l'appropriaient que comme ça. Donc j'ai décidé de l'assumer en disant bah effectivement c'est marrant mais je l'ai écrite pour ça et au final il y a quelque chose où souvent à force de discuter avec des gens donc qui se retrouvent dans cette chanson et qui me parlent de ce genre d'événement, de la perte d'un proche, de se rendre compte que ce qui est affreux entre guillemets c'est la mort, c'est pas la vie. Les gens souvent disent la vie est dégueulasse, non, la vie est très belle. Et il faut savoir la regarder de manière belle. La mort est affreuse et la mort nous emporte des gens. Et puis souvent, je pense que les gens qui sont partis, alors dans certains cas peut-être pas, mais la plupart en tout cas choisissaient la vie et seraient en tout cas heureux s'ils nous voient. En tout cas, je pense que ils veulent qu'on vive à 200%. Et c'était un peu le. En plus, moi, il m'avait beaucoup appris la musique, etc. Ça m'a donné la force de me dire, la vie est courte, je vais pas faire quelque chose que je n'aime pas. Ou en tout cas, je vais tout tenter pour faire ce que j'aime et essayer d'être le plus heureux possible.
Et je crois que vous y arrivez, d'être soi-même.
Oui. Voilà. D'être moi-même, de vraiment. De savoir où je veux aller, de poser le pour et le contre, d'essayer d'avoir du recul, j'essaie de m'améliorer tous les jours, mais en tout cas d'être intègre et honnête et d'aller jusqu'au bout des choses parce que la vie est courte et parce que de toute façon je ne saurais pas vivre autrement. Je pense que l'important c'est d'avoir toujours un rêve, de le poursuivre et que quoi qu'il arrive, même si on n'atteint pas vraiment ce rêve-là, on en touche d'autres, on vit des moments exceptionnels qu'on ne peut vivre que si à un moment on décide de choisir sa vie et de ne pas la subir.
Sur MFM Radio, il parle et il chante. Il s'appelle Grégoire, c'est votre invité. Ta main.
Samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire sur MFM Radio.
Alors Grégoire est votre invité. Un autre mot et à moi de faire la question.
Pizza.
Pizza. Oui, parce qu'un jour, lors d'un album, ah oui. Vous nous aviez invité à partager une pizza chez vous. Vous êtes gourmand?
Oui, très. Et dessert, tout ça. J'adore. Et après, je suis dans tous les sens. Hein. C'est-à-dire, je peux très bien manger de la junk food, enfin, que de quelque chose de très gastronomique. Je suis très. C'est la nourriture, ça me quitte. On est obligé de se nourrir, autant bien le faire.
Oui, bien sûr. Comme on est à l'heure du déjeuner, donc bon appétit à celles et à ceux qui vont se mettre à table ou qui y sont déjà. Votre plat super préféré, le truc pour lequel vous dites oh là, alors là, c'est génial.
Là, tout de suite, ce qui me vient à l'idée, c'est une côte de bœuf avec des frites. Mais des vraies frites, hein, pas des surgelées.
La grosse frite.
Non, mais la frite, la pomme de terre qu'on épluche et qu'on découpe et la côte de bœuf au barbecue, effectivement, c'est.
À Senlis, quand vous habitiez Senlis, quand vous étiez petit, c'était quoi, un appart, un pavillon?
Une maison, ouais.
C'est quoi la vie à Senlis il y a 35 ans? C'est la vie de province?
C'est la vie de province, c'est la forêt, c'est le jardin, c'est les balades à vélo, c'est... Senlis, c'est 20 000 habitants, mais c'est quand même assez petit, c'est-à-dire qu'on, j'avais pas un ami qui habitait à plus de 10 minutes, un quart d'heure à pied, ouais. Maximum, donc c'est une sorte de liberté où tout est simple, et voilà, c'est tous les week-ends, on fait du sport, on se retrouve, on fait un petit foot, on fait quelque chose, et c'est le grand air, c'est vraiment, comparé aujourd'hui, moi qui vis donc à Boulogne-Billancourt, mais c'est presque Paris, j'ai besoin de l'odeur de la forêt, l'odeur de l'herbe, de la terre, de toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui me manque beaucoup.
Un autre mot, Grégoire.
Papa-maman.
Papa-maman, on en a un petit peu parlé, mais qu'est-ce qui vous a apporté avec le recul? Vous-même, vous êtes un papa de 2 ou de 5?
J'allais dire un papa de 5, mais en même temps, parce que donc pour être un peu clair, ma femme a eu 3 enfants d'un premier mariage et on en a eu 2 ensemble. Je suis le papa de 2 parce que ça me fascine aussi. Ma femme et son ex-mari se sont quittés en très bons termes et donc le papa est présent, ce qui fait que j'ai plus un rapport de grand frère.
Le papa est présent, vous vivez à 3?
Non, pas du tout.
Ah bon.
Mais le papa, les enfants, enfin les 3 aînés voient leur père régulièrement, les relations sont bonnes.
Ça, c'est bien.
Voilà, et les parents entre eux, ma femme et son ex-mari, s'entendent très bien. Donc, il n'y a pas de problème de vacances, de trucs, il n'y a pas de petits jeux bizarres, etc. Non, tout se passe très bien. Et donc, moi, j'ai plus une place de grand frère. J'avais pas une place de père à prendre, en fait. C'est pour ça que je suis pas vraiment le papa des 3 aînés. Je suis plus un grand frère, je suis dans une autre place. Mais je suis le papa des 2 petits,
alors,
ça, c'est sûr.
Il y a Paul et Léopoldine, et ils demandent à leur papa, qui est Grégoire, c'est quoi la vie, papa?
Alors moi, il y a une phrase de... Il y a 2 phrases qui me viennent en tête. Il y a une phrase de Pagnol qui dit « La vie, c'est quelques sourires entre de grandes souffrances, mais il ne faut pas le dire aux enfants. » Mais la phrase qui me vient là, c'est une phrase de John Lennon où il dit « Quand j'étais à l'école, on me demandait ce que je voulais faire plus tard. Je leur ai dit « Moi, je voudrais être heureux. » On m'a dit « Vous avez pas compris la question ?» Et Lennon a répondu, et il avait 10 ans ou un truc comme ça, il a dit « Moi, je pense que vous avez pas compris la vie. »
Alors, génial, ça, je vais m'en servir.
Et je trouve que cette réponse, surtout de la bouche d'un enfant, parce que les enfants ont des vérités comme ça qui sortent, je trouve que c'est ça la réponse. Moi, l'idée, c'est que mes enfants soient heureux et donc déjà, ils feront ce qu'ils ont envie de faire. L'idée, c'est vraiment de les amener Moi, j'allais dire, mon but, c'est de leur transmettre la curiosité, le respect de l'autre et des choses comme ça pour qu'après, ils aient le choix et qu'ils aient l'envie et qu'ils fassent tout de manière honnête, intègre. Et c'est vraiment, je pense, l'exemple avec ma femme qu'on veut leur donner. C'est-à-dire de l'important, c'est d'être épanoui parce que de toute façon, on ne vit jamais mieux que heureux. Et donc de rechercher son bonheur absolu à chaque fois, parce que les relations avec les autres sont plus simples. Quand on est bien soi-même, et ben on est bien avec les autres. Tout part de là, et je pense que voilà, l'important c'est que d'essayer de leur apprendre à aimer de la vie et de trouver leur bonheur.
Un autre mot sur la tablette.
J'y croirai toujours.
Vous croirez toujours en quoi?
En l'homme, au fait qu'on est...
Déjà, est-ce que vous croyez en Dieu?
Je crois, j'ai une spiritualité, donc qui est effectivement très basée sur le Dieu catholique, parce que j'étais baptisé il y a 3 mois, et après c'est une éducation que j'ai reçue. Mais après je crois à l'idée, ce qu'il y a de commun dans les religions, c'est-à-dire à l'idée de l'amour, à l'idée
de l'autre,
de la solidarité, le don de soi, etc. Je pense que les gens qui sont les bénévoles, les pompiers, les gens qui vont vers l'autre ont quelque chose en eux qui les qui une force qui les pousse à ça. Après, que ce soit Dieu, que ce soit je sais pas quoi, mais en tout cas, il y a quelque chose qui dépasse l'humain. J'aime beaucoup les concepts de Nietzsche qui l'idée du surhomme dans le bon sens du terme, hein, pas comme il a été dévié à l'époque, mais dans l'idée qu'on peut être meilleur que ce à quoi on est destiné et qu'on peut se être supérieur à tout ça et toujours faire des efforts. Et donc il y a cette idée là. Je pense que je pense que le prisme qu'on a via la télé, etc., est énormément faussé par rapport à ce que sont les gens, et je le vois par rapport à mes tournées, etc. Je pense que les gens sont beaucoup plus proches les uns des autres, notamment en province. et sont beaucoup plus dans l'empathie, beaucoup plus dans le service et dans ces choses-là que ce qu'on veut nous faire croire.
Oui, parce que souvent à la télévision, on parle toujours des mêmes.
On parle du mec qui a grillé la priorité, voilà, et qui a créé un accident. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui respectent les autres, et je le croise beaucoup, notamment en province. Donc je croirais toujours qu'on est fondamentalement bon et qu'à un moment il y a et qu'on pourra s'en sortir.
Vous avez choisi d'écouter Né en 17.
Oui. Ah, ça, je trouve ça me fascine. Jean-Jacques Goldman est une personne qui me fascine. Ça me fascine de pouvoir, d'avoir écrit cette chanson-là. D'un moment sur quelque chose, un sujet, j'allais dire, aussi sensible. Et puis après, il y a Belfast, il y a pour Michael Jones, et puis Jonas Buck pour Carl Fredericks. De cette capacité à se recul, à prendre du recul et à se dire, est-ce que j'aurais été meilleur ou pire que ces gens? Oui. C'est quand même, non seulement déjà d'avoir eu l'idée, et ensuite de l'avoir assumé, de l'avoir chanté. Je trouve ça absolument... Et puis c'est juste poser une question, hein. Il n'y a pas d'avis là-dedans. Et je trouve ça... Donc c'est le genre de chanson, moi, qui me fascine. Parce que
on
c'est...
est au moins deux. Parce que...
Et puis en plus, voilà, elle est longue. Enfin, il y a plein de paramètres. Il y a le texte, il y a le fait de l'avoir assumé, l'intelligence du recul. Et puis après,
la question, c'est une chanson aussi
qui n'a pas de refrain.
Ouais.
C'est une chanson qui est longue... Et voilà, et de l'envoyer aux radios, enfin, il y a tout un truc qui... Il y a beaucoup de paramètres qui font que Jean-Jacques Goldman, c'est pour moi une preuve d'intégrité et d'honnêteté de dire, voilà, moi j'ai envie de parler de ça, j'en parle, et puis ensuite je le fais à ma façon, et c'est comme ça. Et je trouve ça très beau de sa part d'être allé jusqu'au bout.
Nous sommes numéro 1 sur la chanson française, sur MFM Radio, donc nous devions de passer cette chanson.
Samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire, avec Grégoire, à l'occasion de la sortie de son nouveau titre, C'est quand ?
Grégoire, quelques mots encore, avant la fin de l'émission. Frère. On en a parlé.
Ouais.
On en a parlé, mesdames et messieurs. Vous voyez, je vais continuer en même temps. Je rappelle que Grégoire, il n'en fait pas état, hein, mais il faut savoir que Grégoire, vous ne le saviez peut-être pas, mais a perdu deux frères dans sa vie, et ça ne se remplace pas. Et il a choisi d'être positif. Vous les avez en vous ?
Oui. Oui, c'est... J'allais dire, c'est l'avantage, d'une certaine manière. C'est qu'ils ne me quittent jamais. J'ai pas de questions à me poser de savoir où ils sont, entre guillemets. J'ai pas d'inquiétude. Après, je les porte en moi. Et au final, c'est une force. Hein. C'est quelque chose que... Il y a juste des moments comme la naissance de mes enfants, comme des événements dans ma vie, des événements très marquants, la première fois qu'on a chanté notamment Ta main aux Enfoirés, ou des choses comme ça qui on aimerait qu'ils soient là, et on aimerait avoir la certitude qu'ils puissent partager ce moment. Mais en soi, après, c'est vrai que c'est non, ils sont en permanence, c'est Et puis c'est bien, parce que c'est effectivement, on parlait d'honnêteté, on parlait d'intégrité, il y a le côté, j'ai l'impression d'avoir des gens qui me regardent et qui me disent, voilà, je leur demande pas si ça leur plaît d'une certaine manière, mais de sentir qu'en moi, voilà, je me sens honnête, et donc je pense qu'ils seraient fiers de moi.
Un autre mot.
J'ai même
rencontré des gens bien.
Ah bien sûr.
Parce qu'on rencontre tellement de gens qui ne le sont pas, que je me dis que la vie, ça vaut toujours le coup continuer le jour d'après, parce qu'il y a quelqu'un de bien.
Oui. Et puis, la roue tourne tout le temps. Et puis, ça dépend aussi de la façon dont on regarde, dont on voit les choses. Et au final, les gens, entre guillemets, pas bien, j'allais dire, moi, je les vois même plus, ou je n'y prête pas attention. Mais j'ai rencontré des gens exceptionnels. On parle de Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, c'est quelqu'un d'absolument fascinant. Ça, c'est ce qu'il, tout ce qu'on en dit, en fait, positivement, est vrai. C'est quelqu'un, et le recul, c'est quelqu'un qui a toujours la bonne réponse, presque. Ça me, donc il y a des gens comme ça. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Je peux en citer des tonnes et des tonnes.
Ça fait combien de temps que vous faites ce métier?
Ça va faire 7-8 ans.
7-8 ans?
Ouais.
Déjà?
Toi plus moi, c'est 2008-2009.
Oh là là. Mais vous faisiez quoi avant?
J'étais attaché de presse. J'étais attaché de presse de Salé. J'ai fait Chimène Badi, U2, Michel Sardou, 50 Cent.
Mais je vous avais vu en tant qu'attaché de presse?
Non. Non, c'était 2004. Non, parce qu'en plus, j'étais beaucoup en radio.
Ah ouais, moi je faisais de la télé.
Ouais, 2004-2005-2006.
Dernier mot alors, pour clore cette émission.
Mélancolie.
Mélancolie. Est-ce que vous êtes mélancolique?
La mélancolie, c'est vraiment l'idée de... Il y a un côté toujours se replonger dans l'avant. Ouais, truc,
mais moi, je trouve que...
Moi, je suis très fleur bleue. Je suis très romantique.
Ouais.
Et j'aime les, effectivement, et puis j'adore les chansons un peu tristes, j'adore ces choses-là. Donc, la mélancolie dans ce sens-là,
mais
oui.
C'est ça. Je trouve que souvent ceux qui...
Je suis pas nostalgique.
C'est pas la même chose.
Ouais, mais il y a,
Mais souvent ceux qui écrivent et ceux qui écrivent et qui font des chansons aiment se trouver dans un état mélancolique pour écrire encore mieux.
Oui, mais c'est surtout que c'est aussi plus simple d'écrire là-dessus. C'est-à-dire que écrire sur le bonheur ou un truc, soit on fait vraiment, j'allais dire, on est vraiment dans un groupe, je pense, la Compagnie Créole. On est vraiment, mais dans le côté, on est soleil et le but c'est de faire danser et voilà. Donc on cherche un texte, on cherche quelque chose de très léger et voilà. Soit on est dans autre chose et on est dans une dynamique où on écrit les chansons. Il y a une sorte d'exorcisme aussi. C'est comme parfois une psychanalyse hein, quand on écoute certains textes de pas mal de chanteurs. On sent que la personne a vraiment vécu le truc. Et donc tout ça, forcément, on se replonge dans des moments qui sont souvent un peu intimes et parfois un peu tristes parce que c'est là où on a le plus à dire. Quand on est heureux, on profite, on rigole, mais on n'est pas là, on s'arrête pas pour dire ben tiens, on se rend compte qu'on est heureux une fois qu'on est malheureux d'une certaine manière. Mais quand on est malheureux, on le sait. Et là, on dit je suis malheureux, on appelle tout le monde, ouais je suis malheureux, hein, et puis on en parle pendant des heures. Donc voilà, c'est plus facile et c'est plus vaste d'écrire sur les choses qui sont un peu tristes ou un peu ou des questions que sur le bonheur en soi, parce que le bonheur on le vit, et puis à part dire ben vas-y on va danser. Alors effectivement j'écris toi plus moi, il y a un côté très festif là-dedans, mais voilà, c'est très rare les chansons qui je pense, je sais même pas si toi plus moi là ce sens là mais une chanson très heureuse qui ait vraiment un sens dans le texte, j'en connais pas beaucoup.
Bisous.
Ah oui, là on parle d'un autre niveau. Là, on parle plus de musique, on parle de littérature.
Allez, on se fait un duo pour terminer. Vous êtes John Lennon, je suis le professeur parce que c'est trop fort. Alors John, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie?
Je veux être heureux.
Attendez, vous n'avez pas bien compris la question.
Moi je pense que vous n'avez pas compris la vie.
Elle est formidable. Non mais je trouve ça extraordinaire. Je ne vous ai pas bien connu en tant qu'attaché de presse. Je vous ai suivi, vous le savez, en tant qu'artiste et dès le départ. Je vous aime beaucoup.
Merci.
Parce que je trouve que... Ben moi, je trouve que vous êtes carré, quoi. Et moi, j'aime bien les gens carrés.
C'est gentil.
Voilà.
Merci beaucoup.
Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était à l'occasion de la sortie de C'est quand ? Ben, c'est quand vous voulez, la prochaine fois.
Mais c'est adorable.
Vraiment,
merci beaucoup.
Pas de problème. On se quitte ? Oh non, pas totalement.
Samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire, avec Grégoire, à l'occasion de la sortie de son nouveau titre, C'est quand ?